des pratiques contemporaines relatives aux enfants en Afrique. Une étude de l'UNICEF qui donne un petit peu le profil des enfants qui sont la cible d'accusations de sorcellerie. Alors, les orphelins, bien sûr, les enfants issus de familles décomposées, enfants handicapés, ayant une déformation corporelle ou une particularité physique, handicapé mental, autiste, trisomique, voire bégayeur, ou même enfant surdoué. Également, dans cette catégorie, les enfants ayant un comportement insolite, voire têtu, agressif, pensif, solitaire ou indolent. C'est un petit peu la définition de l'adolescence, en somme. Donc, on a l'impression qu'il y a une certaine forme de crise sociale, peut-être, qui fait qu'on ne contrôle pas son enfant, donc on cherche des explications autres que les pures explications psychologiques, hein.
Je pense que la principale cause, il faut vraiment aller en profondeur, c'est la pauvreté. Vous savez, vous avez les familles qui se retrouvent assez démunies, et ces familles-là, et puis quand on parle de la pauvreté, il faut voir aussi le niveau d'éducation des parents, qui ne sont pas en mesure d'apporter l'éducation qu'il faut à leurs enfants. Mmh. Donc déjà, quand vous mettez ces deux ingrédients ensemble, l'enfant, il est livré à lui-même. C'est pour cela que les Nations Unies ont jugé bon de mettre en place cette convention qui, en fait, engagerait la société civile, bon, évidemment les parents aussi, à prendre soin de leurs enfants. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment des mesures d'accompagnement pour surtout les familles démunies.
Donc,
on peut parler de négligence, mais la source, vraiment, c'est la pauvreté.
Bien sûr, la question de la pauvreté, on l'a abordée dans le premier volet de l'émission, et c'est la base de tout, bien évidemment. Nous avons Abdoul Makassi en ligne. Abdoul Makassi, bonjour. Allô? On n'entend pas Abdoul, hein, donc on va passer. Est-ce que l'on a quelqu'un d'autre? El Hadj So à Dakar, que nous avons déjà eu. Allô, El Hadj. Allô.
Oui, bonjour.
Oui, ça va très bien, merci. On vous écoute.
D'accord, je voudrais intervenir sur la mendicité. Bon, ici à Dakar, depuis que je suis venu, c'est le premier constat. Mais c'est pas à Dakar seulement, c'est dans tous les pays africains. Particulièrement à Dakar, ici, il y a des enfants et des adultes qui s'appellent des baïfal, mais bon, ils viennent, ils obligent quelqu'un aussi à leur donner quelque chose. Donc, tout ça, là, c'est dû à la pauvreté, à la malformation des gens, surtout des jeunes qui ont plus de 20 ans et quelque comme ça. Vous avez vu?
Oui, alors en effet, il y a toujours des raisons très particulières. Vous êtes à Dakar, vous, El Hadj?
Oui, je suis à Dakar, particulièrement à Guédiouaï.
Bon, alors vous nous avez déjà parlé, hein, la dernière fois, il me semble, des problèmes, alors des marabouts aussi, hein, qui manipulent ces enfants de la rue. Donc c'est un autre problème que, mais ce sont aussi, hein, des enfants qui sont maltraités d'une certaine manière. Hein. Tout le monde sait que la place d'un enfant n'est pas dans la rue, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec tous ces chiffres, parce que il y a énormément d'enfants en Afrique qui passent leur temps dans la rue. Il y a également les enfants qui font l'école buissonnière. Il y en a énormément aussi, et ceux-là ne sont peut-être pas comptés dans les chiffres. Hein. Ces enfants qui, au lieu d'aller à l'école, c'est un réel problème de société, Madame Kalogil. On a du mal à s'imaginer qu'un enfant puisse se trouver plus en sécurité dans la rue qu'ailleurs. D'une certaine manière, c'est là où il va. C'est qu'il y a un réel problème au niveau de son entourage. Pour qu'il aille chercher. C'est un internaute, hein, qui a écrit cela aussi. Certains enfants, entre guillemets, on le dit bien parce qu'un enfant ne choisit pas, choisissent d'aller dans la rue, mais c'est bien que là où ils sont, ça ne va pas.
Oui, ça, c'est lorsque le tissu familial est vraiment décomposé. L'enfant, il cherche, vous savez, l'enfant, c'est toujours la recherche, la découverte. Donc, l'enfant qui se retrouve dans la rue, déjà, il faut se poser plusieurs questions. Quand l'enfant sort du milieu scolaire, qui se retrouve dans la rue, déjà, il faut savoir encore s'il n'a pas un problème d'handicap. Parce que tout à l'heure, on a parlé de handicap intellectuel. Donc, souvent, l'enfant, quand il est mal compris, ben, il se retrouve dans un milieu où il se sent plus ou moins à l'aise. Et n'oubliez pas aussi que les enfants qui sont dans la rue sont utilisés à d'autres fins. Donc ça, ce sont des aspects qu'on ne voit pas réellement. Mais il y a une frange de la société qui vraiment qui encourage d'avoir les enfants dans la rue. Et comme vous savez, les pays dont on parle, ces pays-là sont constamment en conflit. Donc ces enfants-là sont utilisés justement aussi dans ces milieux-là. Donc c'est une responsabilité qui est assez partagée. Et au niveau de l'éducation, est-ce que les enfants sont encadrés comme il faut?
Oui, c'est toujours la question, effectivement. J'en profite pour lire, avant de reprendre à un auditeur, un Djibril à Conakry, un commentaire d'un internaute sur VO Afrique, Chriso Katamboa, qui avait dit la dernière fois, parmi les causes, il y a aussi l'avènement de toute une rubambelle de faux prophètes émanant des églises évangéliques qui ne font que taxer les enfants de sorciers et d'être à la base de la pauvreté de leurs parents au nom de la prophétie. Et ces derniers, dans leur naïveté, ils chassent leurs enfants dans la rue et deviennent des chégués. On les appelle donc les chégués. Nous avions aussi Nkurunziza Gilbert qui disait « Pour combattre cette pauvreté aiguë en Afrique, il faut que tout le monde se lève. » Alors lui, il dit, c'est pour ça que je voulais citer ce témoignage, il dit « Moi, j'ai créé une association dénommée Action citoyenne contre la pauvreté Sanguira. Notre association a pu récupérer 28 jeunes et maintenant ils fabriquent des briques comme activité génératrice de revenus. D'autres initiatives sont en cours, donc ben, bravo à Gilbert, et puis c'est bien, et c'est vraiment ce type de témoignage qui est formidable. Nous avons Arsène Kambala qui a dit « Tout à fait naturel, lorsqu'ils sont paupérisés à outrance, sans emploi ou avec des salaires de misère, la majorité des parents ne sont pas à même de prendre en charge les besoins de leurs enfants, et quand les parents se retrouvent déjà dans la rue, qu'adviendrait-il aux enfants ? C'est dur, c'est très dur, en effet. » Est-ce que nous avons Djibril à Conakry en ligne? Georges?
Oui.
Oui. Allô, comment allez-vous?
Oui, je vais bien, madame, et vous?
Ça va très bien, on vous écoute.
Oui. Concernant le sujet des enfants qui sont dans la rue, je disais que je pointe le doigt accusateur sur l'État et les familles. Vous voyez? Parce que, comme vous l'avez dit, l'enfant ne choisit pas lui-même d'aller dans la rue. C'est suite à l'éclatement de la famille. Vraiment, il ne trouve plus quoi faire. Il va se réfugier chez son ami, qui sont à peu près dans la même situation que lui. Mais par fini, il est obligé d'aller dans le marché, transporter des bagages pour trouver quoi manger. Et si cela n'est pas possible, il est obligé de se livrer à des trucs comme la délinquance, le vol. Vous voyez, dans le quartier, c'est suite à tout cela, il se retrouve sur dans le... Parce qu'il s'est haï par les gens, si vous voyez. Et il s'est repoussé partout, il vient, il est rejeté parce qu'il est connu d'un nom qui n'est pas bon dans la société, quoi, en fait. Donc, il est rejeté par les gens. Donc, il est obligé, lui aussi, de s'isoler quelque part, en tout cas, de s'isoler avec ses semblables, parce qu'il trouvera toujours ses semblables. Donc, moi, je pointe le doigt qu'il y a tout sur l'État qui doit ici mettre des mesures d'accompagnement pour sauver ces enfants-là, parce que ce sont les relèves du pays. Pourquoi on les laisse comme ça?
Vous êtes à Conakry?
Oui, je suis à Conakry.
Oui. Alors, à propos d'accompagnement, dites-moi, j'ai le souvenir depuis ma dernière visite à Conakry, dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des enfants, des petits-enfants handicapés qui mendient dans la rue, à Conakry?
Il y a plein d'enfants qui vivent dans la rue à Conakry. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans la rue à Conakry, madame.
C'est quand vous venez est-ce que à l'on Conakry, trouve vous encore vous des enfants Est-ce que l'on trouve encore des enfants handicapés qui mendient? Des jeunes handicapés?
Justement, il y a des jeunes handicapés, il y a des vieilles personnes même, des vieilles femmes qui sont au bord des carrefours pour commander les gens. Il y en a plein de gens qui font cela. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, qui sont livrés au vol. Des fois, on les prend dans le marché, on les bastonne. Vous voyez, il n'y a personne. Quand on demande leurs parents, ils n'ont pas de parents. Pourtant, un enfant ne sort pas comme ça.
À propos de ce que vous venez de dire, on les bat dans la rue. Moi personnellement, j'ai été témoin de cela en Côte d'Ivoire, en 99, un enfant de 12 ans qui s'appelait Mohamed. Je l'ai vu se faire battre par plusieurs personnes en costume, cravate, des gens très respect, qui avaient l'air très respectables, n'est-ce pas? Et un garde de sécurité avait une barre de fer et il frappait l'enfant sur la tête. On a été obligé de l'emmener à l'hôpital. Il était blessé à la tête, n'est-ce pas? Et on a cherché partout un moyen de l'emmener quelque part où il y aurait eu une organisation, une ONG, un orphelinat. Et puis, finalement, cet enfant, tout le monde l'a rejeté. Personne n'en a voulu. C'est un enfant de la rue, nous a-t-on dit. Et il s'est retrouvé au poste de police. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est bien la place d'un enfant de 12 ans de se retrouver en cellule avec des adultes? C'est ça la question. Hein, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Non, mais c'est triste, hein, et c'est encore, on revient à la convention qui a été mise en place pour les protéger. Et dans ce phénomène-là, il faut aussi citer les déplacés de guerre. Mmh. Donc, quand on parle de 30 millions, vous savez que quand on prend le cas de la Guinée, elle a connu sa crise. Mmh. Et tout cet exode rural, qu'est-ce que ces enfants sont devenus? Parce que les orphelins, évidemment, on les connaît, mais les gens qui sont dans les camps de réfugiés, à un moment donné, quand le camp ne peut plus, disons, répondre aux besoins, ces enfants-là aussi s'évadent. Mm-hmm. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, on peut aussi ne pas avoir de traces des parents de ces enfants-là. Mm-hmm. Donc, le plus souvent, c'est ce fléau-là qui nous échappe. Les déplacés internes, déjà, mm-hmm. pas forcément...
Les ex-enfants soldats, entre guillemets, hein, également, beaucoup se retrouvent dans la rue.
Hein, oui, justement, c'est pour ça que je dis qu'il mm-hmm. y a un groupe de la société qui un peu encourage ce genre de choses parce qu'on les utilise à d'autres fins. Mm-hmm. Donc, et ça,
même pour les élections, hein, à Kinshasa,
oui,
à un moment donné, on a utilisé les enfants de la rue pour les élections. Hein.
Oui. Mm-hmm. Donc, et malheureusement, ça, c'est ce sont nos leaders de demain, et on pense que l'Afrique va se développer comment? Si déjà sa jeunesse n'est pas encadrée, n'est pas, disons, éduquée, je pense que cette situation, elle interpelle tout le monde.
Absolument, absolument. Nous avons Samson à Yamoussoukro. Allô, Samson?
Oui, je suis en ligne.
Comment allez-vous?
Oui, ça va bien. Ici à Yamoussoukro, ça va.
Alors, justement, tiens, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ce sujet, ce que vous avez à dire, et puis peut-être vous pouvez nous parler de Yamoussoukro. Vous connaissez cette situation-là à Yamoussoukro ou pas?
Oui, effectivement, mm-hmm. on en trouve ces enfants de la rue là un peu partout. Même à Dijon où j'étais, avant d'arriver à Yamoussoukro mm-hmm. ici aussi, ce phénomène est réel. Même quand vous allez dans les gares, en face de l'hôpital, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît Yamoussoukro. En face de l'hôpital, il mm-hmm. y a des gares qui sont là. Et donc, ces enfants-là, on les trouve un peu partout. C'est eux qui prennent les bagages des passants, des passagers. Et puis, ce sont des bagages qui dépassent même leur entendement. Hein. C'est très lourd. C'est très lourd. Donc, vraiment, c'est vraiment malheureux. Mais quand on leur demande, très souvent, ces enfants de la rue, là, ce qui provoque cela, c'est la situation familiale, la pauvreté. La pauvreté, des enfants qui n'arrivent même pas à assurer le quotidien, les parents qui n'arrivent pas à assurer le quotidien de leurs enfants, c'est-à-dire manger au moins 2 repas par jour, ce n'est pas possible. Cette pauvreté-là fait que ces enfants se retrouvent dans la rue pour essayer de commander, transporter les bagages, partir par là pour avoir au moins une petite pièce de 100 francs, pour 100 francs CFA bien sûr, pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Et puis bon, quand il y a les familles dissociées aussi, ça c'est la raison fondamentale aussi, les belles-mères qui arrivent, très souvent, ils maltraitent ces enfants-là. Elles maltraitent ces enfants du moins. Donc ça fait que l'enfant n'arrive même plus à s'insérer dans la cellule familiale. Et vraiment, c'est dommage. Malheureusement, bon...
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samson. Excusez-moi de vous arrêter. Nous avons le professeur André... André, allô, allô? André Massiala,
oui,
Massolo.
Alors, oui, Nathalie, oui.
Et bonjour. Alors, on est content de vous entendre. Malheureusement, c'est bientôt la fin de l'émission, mais nous avons encore un petit peu de temps et nous allons en profiter. Hein, c'est le problème des communications, on a toujours du mal. Alors justement, je vous pose directement cette question, hein, puisque vous êtes à Kinshasa et que ce problème est vraiment un problème réel. Hein. Ces enfants qui sont traités de sorciers, envoyés dans la rue, chassés par leur famille, enfin, tout ça, ça paraît être un petit peu des clichés, mais c'est quelque chose de bien réel. Est-ce que vous connaissez ces enfants?
Oui, parce que je suis avec ces enfants depuis 1986. Et je connais des enfants, oui, qui sont traités de sorciers, des enfants dits sorciers, mais qui ne sont pas forcément des sorciers.
Bah, oui, ça, c'était... C'est ce qu'il ne faut pas oublier de préciser. C'est effectivement ce qu'il ne faut pas oublier de préciser. On les qualifie de sorciers. Hein. Quels sont les traumatismes de ces enfants? Parce que on a vu divers témoignages, hein, on peut le voir à travers la presse. C'est très facile de se documenter de nos jours avec Internet. On peut tout voir, tout comprendre. Tout. Et on a vu beaucoup de témoignages de ces enfants qui sont même maltraités par ces églises.
Exact, oui. Et ils sont rejetés par leurs parents et ils quittent eux-mêmes aussi les familles à cause des traumatismes psychologiques, le regard des parents, le mauvais traitement qu'ils reçoivent les oblige à quitter le toit familial pour aller vivre avec ce qui les ressemble, donc ce sont les autres enfants qui sont dans la rue, ils sont filles et garçons. Il y a des églises qui en ont fait aussi. Enfin, je ne les appelle pas églises, je les appelle des mouvements religieux qui récupèrent ces enfants pour en faire un fonds de commerce.
Oui, alors.
Oui, et ça, ce sont des réalités.
Alors, dites-moi si je me trompe.
Nous avons essayé d'examiner avec Save the Children il y a quelques années en arrière.
Alors, justement, effectivement, ce n'est pas un problème nouveau, mais visiblement, ça perdure. En somme, ces églises, alors, on fait payer les parents pour désenvoûter l'enfant. Et il y a des séances de désenvoûtement, et d'après certains témoignages, extrêmement violentes. Hein. Est-ce que vous, de votre côté, vous arrivez à sensibiliser ces mouvements religieux, ces sectes est-ce que vous arrivez à les sensibiliser?
Bon, je suis psychothérapeute, je suis professeur de psychologie et je travaille aussi en partie dans l'église protestante. C'est difficile d'aller demander aux pasteurs qui font un fonds de commerce en utilisant ces enfants de cesser. Mais nous avons réussi à certains moments de les décourager et de prendre les enfants, essayer de les retourner dans leur famille. Ça, c'est possible. Mais il faut vraiment des moyens, pas des moyens financiers seulement, surtout des moyens humains. Parce que c'est un problème d'économie, de crise économique, c'est un problème de pauvreté. Et cette pauvreté matérielle, malheureusement, a atteint la pauvreté spirituelle et psychologique. Et c'est ça qui fait que le phénomène s'est installé et le phénomène se développe.
Professeur André Massiala Massolo, la responsabilité des autorités à Kinshasa par rapport à ce type de problème?
Bon, j'ai reçu des commandants de police qui sont venus déposer au centre, parce que j'ai un centre qui s'occupe des enfants en situation difficile, des enfants de cette qualité-là. Pensant que moi, je vais résoudre leurs problèmes. Mais je ne peux pas résoudre les problèmes sans leur participation, sans la participation des parents et sans la participation du pouvoir local, donc de bourgmestre, de la police et même, pourquoi pas, des juges d'enfants, parce que nous avons réussi à faire accepter à Kinshasa, au Congo, la création des tribunaux spéciaux pour les enfants. Alors, c'est là que ces genres de questions sont traitées. Et d'ailleurs, les juges pour enfants ne reçoivent pas les dossiers, ces genres de dossiers, parce que ça ne rentre pas dans le droit écrit.
Je rappelle que...
Oui. je vous écoute.
Oui, je rappelle que vous êtes le concepteur et directeur du Centre congolais de l'enfant et de la famille. Donc c'était le professeur André Massiala Masselot à Kinshasa. Nous avions également ici dans le studio Jeannette Caleguil, fondatrice de l'ONG United for Love of Children. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. It comes from the townships, locations, reservations, whichever.